entre le Mishma et le Kasher oriental. J'ai réduit totalement cette
histoire. Et c'est une question combattue au personnage, en combinant les deux, de lui précisant trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre espace de discussion, d'échange, de débat citoyen qui est l'émission Parole aux auditeurs. Lundi dernier, c'était la journée mondiale de l'habitat, mais en RDC, près de 830 000 ménages vivent dans des conditions inhumaines, spécialement dans les villes. Cette information ressort des études de profil urbain menées avec l'appui d'ONU Habitat. Par ailleurs, à l'horizon 2010, on risque d'assister à une pénurie importante d'habitations. Il va manquer plus de 2 millions de maisons d'habitation, dont plus de 700 000 pour la seule ville de Kinshasa. Ceci selon le document de programme pays 2008-2009 publié par le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Alors question, quelle politique mettre en place en RDC pour accéder à un habitat convenable? C'est la question principale de l'émission d'aujourd'hui. Un spécialiste pour en parler dans cette émission, il s'appelle Michaud Ouyoumbou, il est ingénieur en bâtiment et travaux publics. Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui viennent à peine de se joindre à nous dans cette émission Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour, monsieur Michaud Ouyoumbou.
Bonjour.
Comme je le disais, vous êtes ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je ne sais pas si je vais bien pouvoir présenter.
Oui, absolument.
Voilà. Donc, il va manquer plus de 800 000 ménages. C'est des millions de Congolais qui vivent dans des conditions inhumaines, hein, spécialement dans les villes. Cette information ressort d'une étude d'ONU Habitat. Votre réaction par rapport à cela?
Oui, c'est tout à fait exact. Le problème de l'habitat, c'est un problème très sérieux dans notre pays, tout simplement parce que il y a presque 50 ans qu'on n'a pas eu une politique cohérente en matière de l'habitat. Mmh. Cela n'est que la conséquence de ce manque de cette politique cohérente en matière de l'habitat.
Voilà, mais quand même, dans le passé, il y a eu des constructions de maisons. J'ai des chiffres devant moi. Il y a eu 3000 logements construits par l'ONEL, donc disons le gouvernement congolais. Dans ces 3000 logements, excusez-moi, il n'y a pas que l'ONEL, hein. Dans ces 3000 logements, il y a 2000 logements qui ont été construits par l'Office national de logement qui a disparu, et puis 1000 qui ont été construits avec le financement de la Régie des eaux et de la SNEL. Depuis lors, en tout cas, il n'y a plus grand-chose qui a été fait. Pourquoi, d'après vous?
Oui, en 1987, l'ONL a été dissous, et depuis la dissolution de l'ONL, on n'a jamais créé un établissement public responsable de la production de logements. Mmh. Cela fait que cette structure s'est totalement dégradée, et puis on n'a plus eu de mesures adéquates concernant la production de logements. Et il n'y a pas que ça aussi, il y a le plus grand problème en matière d'habitat, mmh. C'est la mobilisation des ressources pour la production de logements. Donc il y a eu à l'époque ce qu'on avait appelé CNCI, la Caisse nationale pour l'épargne et le crédit immobilier, quelque chose comme ça, mmh. qui a existé, et cette caisse a néanmoins produit certains logements que nous connaissons aujourd'hui dans cette ville. Par exemple, la cité Mme Mobutu, et puis... la cité Salongo-Nord et Salongo-Sud. Et puis, depuis lors, on n'a plus jamais assisté à une politique cohérente en matière de l'habitat.
Mmh. Mais on voit pourtant à la télévision certains membres du gouvernement qui vont montrer des sites à des opérateurs économiques qui voudraient investir dans des logements sociaux, mais apparemment, on ne voit pas encore grand-chose. Il semble qu'il y a des maisons témoins, mais...
Non. Nous pensons que Il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre de l'habitat. Donc, il va falloir, dans un premier temps, créer, à notre sens, une institution publique responsable de la production de logements. Je sais qu'on a créé Rimokin pour la ville de Kinshasa.
Mmh. Mais
jusque-là, à ma connaissance, on n'a jamais vu une cité qui a été construite soit par le, disons, par l'intervention de l'Imokine ou par l'intervention de partenaires de l'Imokine. Mmh. Tout simplement parce que toutes ces choses-là sont grippées au problème de mobilisation des ressources financières. Donc, le problème de l'habitat, c'est un problème qui nécessite beaucoup de ressources. Il va falloir que l'État ait une politique cohérente, aussi bien pour la mobilisation de ces ressources-là, et aussi bien pour l'aménagement du foncier. Voilà. Parce que même si vous avez des ressources aujourd'hui, faudrait-il aller construire 50, 100 maisons à Kinkole, vous n'aurez pas résolu le problème. Parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont liés au logement. L'habitat, d'une manière globalisante, il s'inscrit dans un cadre où vous avez et le logement, et les infrastructures.
Voilà, on aura le temps de parler, puisqu'on d'accord. vous garde tout au long de cette émission, le temps de prendre aussi quelques auditeurs qui sont déjà en ligne, notamment Stéphane de Lubumbashi et François de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Stéphane, bonjour, vous êtes à Lubumbashi au Katanga.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, tous les auditeurs de Radio Kapi.
Alors, vous êtes sur place à Lubumbashi. Est-ce qu'il y a suffisamment d'habitations là-bas ou bien il y a aussi une pénurie, comme c'est le cas ici à Kinshasa? Et les habitants de Lubumbashi habitent dans des dans quelles conditions?
Non, non, les conditions sont déplorables. C'est l'habitat, la politique de l'habitat n'est pas bien faite au Congo. Dans toutes les provinces, on ressent que l'habitat n'est pas bien. Les gens souffrent pour avoir le logement ici. Même dans l'université aussi, il y a l'insuffisance. Vous comprendrez que c'est une situation qui est un peu déplorable. Nous dirons au gouvernement de mettre en place une bonne politique. Une politique qui doit quand même se faire sentir. Vous comprendrez, le problème c'est quoi, Pierre? Vous allez trouver que dans un quartier où il y a une parcelle de 20 mètres sur 20. Mais vous trouverez qu'il y a 50 maisons à l'intérieur. Et les gens dorment. Les maisons ne sont pas aérées, tout ça, ça fait des problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes.
Est-ce que ce n'est pas parce que les gens veulent habiter dans les centres-villes au lieu d'habiter aussi dans les périphéries? Je comprends qu'il y a aussi des problèmes de transport. Je ne sais pas si c'est le cas aussi à Lubumbashi.
Oui, c'est ça le cas. Mais le problème, c'est quoi? L'État lui-même devait avoir une vision de long. Pour comprendre que non, le problème, c'est quoi? La démographie n'allait pas rester telle qu'on l'avait conçue. Mmh. C'est ça le problème. La démographie ne devait pas rester telle qu'elle a été conçue par le colonisateur. Mmh. Il devait être conséquent en mettant des moyens possibles pour que... Pour... Le problème, c'est quoi? Une personne...
Concluez, s'il vous plaît. Concluez parce qu'il y a d'autres auditeurs.
Il a besoin de construire une maison. L'État ne lui donne pas l'endroit là-bas. Il cherche toujours des problèmes au centre-ville avec les gens pour chercher des concessions, de petites concessions comme ça, pour se construire des
maisons. Merci beaucoup.
Alors que l'État devait amener les gens, il y a des brousses partout là-bas où les gens doivent construire.
Merci
l'État
beaucoup.
L'État devait apporter les marchés et autre chose là-bas, les écoles.
Encore faut-il aménager ces endroits pour qu'il y ait des routes, il y ait des moyens de transport, des écoles et peut-être des hôpitaux, parce que quand c'est très très loin, les gens préfèrent habiter près des endroits où il y a des écoles, des hôpitaux et d'autres structures. Merci beaucoup Stéphane, vous intervenez de Lubumbashi au Katanga. Nous quittons le Katanga pour revenir ici à Kinshasa. C'est avec vous François. François, bonjour.
Bonjour Monsieur Claude, ça va?
Ça va bien, merci, par la grâce de Dieu, j'espère aussi pour vous. Est-ce que, oui. Quelles mesures, d'après vous, l'État devrait... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre votre radio ou vous en éloigner? Parce qu'il y a un effet d'écho ici.
Non, j'ai déjà éteint mon poste radio.
Parce qu'il y a beaucoup de bruit tout autour de vous, s'il vous plaît. En attendant, on va prendre Véronique qui est à Kananga. Le temps que vous puissiez vous arranger avec le problème de bruit, c'est désagréable. Véronique, bonjour, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au Kasaï occidental. D'après vous, on a entendu Stéphane de Lubumbashi au Katanga dire que l'État devrait prendre des mesures pour promouvoir la construction des maisons, pour promouvoir l'habitat dans de bonnes conditions. Tel n'est pas le cas pour l'instant. Quel genre de mesures l'État devrait-il prendre? Peut-être diminuer le coût du sac des sacs de ciment, des matériaux de construction, faire baisser, mettre les infrastructures dans les périphéries, dans les lieux éloignés du centre-ville?
Oui, ça c'est vrai, parce que nous sommes en train de remarquer que les gens ne veulent habiter que dans les grandes villes. Par exemple, à Kinshasa, à Lubumbashi, il y a la plus grande concentration de la population, alors qu'au Kassai, il y a des terrains vides, il y a des espaces vides, beaucoup d'espaces vides là, que les gens ne veulent pas occuper. Ils ne veulent plus la capitale.
Mmh.
Alors, si par exemple, essayer de baisser les prix des ciments et que les moyens de communiquer, les communications aussi étaient vraiment mises à disposition de tout le monde, on pouvait voir que c'est une sorte de ciment. On pouvait vraiment accéder facilement à cette sorte de ciment pour construire aussi dans les cartes. Et puis.
Et combien, et Véronique, s'il vous plaît, combien coûte un sac de ciment, excusez-moi, à Kananga, parce que si mes souvenirs sont bons, dans un reportage de Radio Kapi Kisangani, on a parlé de $60 un sac de ciment, je pense, à Isiro.
En tout cas, je ne sais pas, parce que je venais franchement de Mbashi, là où ça coûte 12 000 francs.
Voilà, merci beaucoup pour votre intervention depuis Kananga. J'invite aussi d'autres dames à réagir, à faire comme Véronique et d'intervenir dans cette émission. Nous appelons 081-99-77-800, 081-99-77-800, et nous allons vous rappeler ou envoyez-nous un SMS au 09-98-999-222, 09-98-999-222, avec vos contacts et nous allons vous rappeler. Voilà, donc au revoir. Véronique, nous retournons à Kinshasa avec François. François, bonjour. Vous êtes maintenant...
Bonjour Claude, maintenant je pense que les conditions sont bonnes.
Oui, maintenant les conditions sont bonnes. Quelles sont vos propositions? Quelle politique mettre en place en RDC pour accéder à un habitat convenable? Est-ce qu'il faut laisser cela entre les mains de l'État ou bien l'État devrait mettre, ou bien peut-être créer ou élaborer des mesures incitatives qui poussent la population à construire?
Justement, c'est mon intervention va dans le sens qu'il faut peut-être signer, de renouveler les sociétés, signer des contrats, ou bien ressusciter les sociétés comme déjà on est les consorts, il faut des grandes maisons. Par exemple, il faut encourager les privés, peut-être qu'ils sont en train de construire. Puisque nous sommes désolés à un moment donné, le gouvernement n'assiste pas peut-être les privés ou ne motive pas les privés. Nous construisons, mais et puis après, vous savez, avec le problème de démolition à Kinshasa, il y a des privés qui construisent, et puis après, quelques jours après, on vous dit non, ce sont des constructions anarchiques et on vient démolir. Voyez par exemple, si avant-hier ou hier, j'ai suivi à la radio Capri, si Royal, il y a le ministère, les maisons appartenant au ministère des Affaires, au ministère de l'Urbanisme et Habitat. On a augmenté le prix des loyers, M. Claude.
Mm-hmm.
Et à plus forte raison, le privé. Donc, l'État donne les feux verts au privé pour qu'ils augmentent aussi leur taux de loyer.
Voilà, donc pour donner quelques informations, il y a des maisons qui s'est louées, des maisons de l'État qui s'est louées à $250,
voilà.
Qui coûtent aujourd'hui $750. Celles qui coûtaient $150, c'est négocié actuellement à $230. Mais il faut relativiser parce qu'il semble qu'il y a aussi des gens qui habitent les maisons de l'État, mais qui, pendant des années, voire 10 ans, ne payent pas les frais de loyer.
Ça, c'est la faiblesse de l'État, M. Claude. Nous avons vu, Madame la ministre de l'Urbanisme est allée, je ne sais pas si au Corée ou à quel pays comme ça.
En Corée du Sud.
Il a signé des contrats. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas des actions à impact visibles, M. Claude. Donc, notre État, notre gouvernement fait toujours des promesses à long terme, des promesses élargies, sans des réalisations. Ça peut être décourager les gens. Moi, j'ai connu un problème, je vous dis aussi, le site Soukoupao, nous avons construit, mais on nous a démoli, mais aujourd'hui, nous sommes abandonnés à notre triste sort, M. Claude. Voyez un peu ce que nous fait l'État. Donc, c'est vraiment regrettable.
Merci beaucoup, François, pour votre intervention, votre contribution depuis Kinshasa, la capitale. Nous allons rester ici à Kinshasa avec vous, l'honorable Enoch. Vous êtes député national, c'est ça?
Je suis député honoraire.
Député honoraire. Monsieur Enoch Sebineza, bonjour d'abord. Bienvenue dans cette émission.
Bonjour.
Alors, vous êtes un politique. Vous avez suivi le précédent auditeur qui dit que l'État promet beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'action à impact visible. Il a parlé notamment de la ministre qui est allée dernièrement en Corée du Sud, je pense, pour ce problème d'habitat. Mais les actions tardent toujours à venir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que politique?
Oui, merci Claude de la parole. Bon, mon intervention va se trouver certainement à ce niveau-là. Je voulais un peu appuyer ce que l'ingénieur a dit. Le problème de l'habitat s'inscrit dans la d'une façon générale, dans la vie d'un pays. Et quand justement on parle de la construction uniquement d'une maison, je crois que c'est isolé du contexte général du pays. Vous savez ce qui se passe ailleurs quand on parle de la crise, même aux États-Unis, la crise financière a commencé d'abord au niveau des logements, au niveau de l'habitat. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la question des logements dans notre pays s'inscrit dans la crise de notre pays depuis, je ne sais pas, de longues années. Ce n'est pas avec un budget de 5 milliards de dollars dans un pays de 60 millions, de plus de 2 millions de kilomètres carrés, qu'on peut prétendre que notre État va répondre à des grandes questions de création de logements.
Et qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes un politique. Qu'est-ce que vous proposez pour, disons, trouver des solutions à cette crise de logement? Parce que vous, les politiques, vous êtes là pour trouver des solutions, à moins que je ne me trompe.
Oui, tout à fait, on est là pour trouver des solutions, mais pas des miracles. Mais ce qu'il faut faire, il faut nécessairement que nous ayons un budget au niveau national, et le secteur logement, c'est un secteur parmi tant d'autres, et il y a un budget conséquent avec justement essayer de corriger tout ce qu'on peut corriger. Vous savez, par exemple, dans tous les pays au monde, les fonctionnaires qui acquièrent des logements, c'est quand ils sont bien payés, ils peuvent maintenant avoir des crédits. Il faut que nous ayons des institutions financières des crédits au niveau national qui donnent des crédits aux fonctionnaires, et des fonctionnaires maintenant peuvent construire. Et dedans maintenant, ce problème de non-paiement des fonctionnaires, ça donne lieu à d'autres conséquences corollaires telles que les constructions anarchiques
Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Enoch Sebineza. Vous êtes député national honoraire, c'est-à-dire de la transition. Vous intervenez depuis Kinshasa. Voilà, pour ceux qui viennent de prendre en cours cette émission Parole aux auditeurs, cet espace d'échange, de discussion entre auditeurs et auditrices qui interviennent partout à travers le monde, vous pouvez participer à ce débat citoyen. Nous appelons 081-99-77-800 et par SMS, envoyez-nous vos contacts ou vos commentaires au 09-98-999-222. Je vous Internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Radio Okapi, attention, s'écrit en un seul mot avec deux lettres au collé. Voilà, nous y recevons Monsieur Michaud Ouyumbu. Il est ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je vous rappelle donc les thèmes d'aujourd'hui. Lundi, c'était la journée mondiale de l'habitat, mais en RDC, près de 830 000 ménages, c'est-à-dire des millions de Congolais, parce que chaque ménage regroupe beaucoup de personnes ici en RDC, donc plus de 800 000 ménages vivent dans des conditions inhumaines, spécialement dans les villes. Cette information ressort des études de profils urbains menées avec l'appui d'ONU Habitat. Par ailleurs, à l'horizon 2010, on risque d'assister à une pénurie importante des maisons d'habitation. Il va manquer plus de 2 millions de maisons, dont plus de 700 000 pour la seule ville de Kinshasa. Ceci, c'est selon les documents de programme pays 2008-2009. Publié par le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Alors, question de ces débats, la seule et unique question, quelle politique mettre en place en RDC pour accéder à un habitat convenable? Si vous avez votre point de vue, si vous pouvez contribuer, vous êtes le ou la bienvenue dans cette émission. Ingénieur Michel Ouyombo, vous avez suivi les réactions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces réactions qu'on vient d'entendre? Est-ce que vous êtes satisfait? Vous êtes pour certains arguments ou vous êtes plutôt contre
ces
arguments?
Je suis impressionné par les analyses des auditeurs. Ce sont des analyses tout à fait vraies. J'ai beaucoup été impressionné par l'analyse de l'honorable Locke. Quand il a dit que le problème de l'habitat, on ne peut pas confondre l'habitat au logement, tout ça. Parce qu'évidemment, l'habitat, ça a plusieurs composantes. Dans les composantes de l'habitat, vous avez et le logement, et vous avez les infrastructures sociaux, les infrastructures de base. Par exemple, la voirie, l'adduction d'eau, l'électricité, et aussi bien toutes les autres infrastructures qui font que le logement puisse dans les conditions les plus décentes possibles. Par exemple, je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a des projets qu'on peut lancer, par exemple, à Kinkole ou à Maluku. Vous allez construire à Maluku 200 maisons, 500 maisons. Mais en fait, vous n'avez pas résolu le problème. Faudrait-il que Maluku, à lui seul, soit ce qu'on appelle soit une ville totalement qui peut dépendre de Maluku. C'est-à-dire que vous avez à Maluku et le logement, et que ce soit un centre où les gens peuvent vivre, ils trouvent des hôpitaux, trouver des écoles et trouver toutes les autres infrastructures dont ils ont besoin pour leur vie. Mais si vous allez à Maluku, à Mitende, construire seulement des maisons aujourd'hui, alors que toutes les activités sont centrées à la Gombe, mais vous n'avez résolu aucun problème.
Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc, quand vous allez à l'extérieur, vous faites l'extension d'une ville. Donc, vous commencez d'abord par ce que nous appelons les équipements collectifs. Donc, vous commencez par les équipements d'intérêt global qui vont faire en sorte, et à part ça, vous avez les équipements comme les hôpitaux, les équipements comme les écoles, et les centres d'affaires, ainsi de suite, ce qui vont faire en sorte que les gens qui vont habiter dans ce coin-là n'habitent pas dans une cité d'emploi, où ils seront obligés seulement d'aller dormir la nuit, et le matin se réveiller pour redescendre au sens ville. Parce que là, vous allez, au lieu de résoudre un problème, vous avez encore posé un autre problème de transport. Donc, quand vous faites l'extension d'une ville, vous devez tenir compte que ce sont des cités autonome, où les gens peuvent y vivre et y rester pendant longtemps, ça totalement dépend de l'ancienne ville. Donc l'extension des nouvelles villes doit s'inscrire dans cette vision-là. Alors que malheureusement, jusque-là, on a vu la ville faire l'extension de la ville vers Gili, vers Massina, vers Maluku, etc., pour la ville de Kinshasa, par exemple, alors que les équipements collectifs posent des problèmes. Ce qui fait que vous avez la ville dans un sens, qu'on appelle la commune de la Combe, qui est le centre des affaires, le centre des administrations et le centre de, aussi bien de, comment on appelle ça, des ambassades, ainsi de suite, alors que l'extrême de la vie est en train de devenir des cités dortoirs. Donc les gens vont dormir et le matin ils se réveillent pour venir travailler en ville.
Monsieur l'ingénieur, s'il vous plaît, mais aujourd'hui, c'est peut-être la raison qui explique que beaucoup de gens veulent bien habiter ici au centre-ville.
Absolument.
Aux alentours de la Combe, du centre-ville et dans les autres villes aussi du pays, c'est la même chose.
Absolument.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est la solution telle qu'on la voit aujourd'hui à Kinshasa pour habiter tout près du centre-ville? Les gens scindent la parcelle en deux et vont la moitié de la parcelle on voit des gens ériger des maisons en étage. On vend la moitié de sa parcelle. Est-ce que c'est aussi une solution pour ce problème de logement?
Non, c'est pas une solution parce que vous savez, l'homme, tel que Dieu l'a créé, a besoin d'un espace minimum vital. Mm-hmm. Donc, il y a maintenant ce qu'on appelle parcelle. En réalité, ne sont pas des parcelles. Parce que vous avez des dimensions même qui sont en dessous de la dimension définie pour que cela soit appelé parcelle.
Il n'y a même pas d'espace pour respirer.
Il n'y a même pas d'espace. Il n'y a aucune ventilation. Vous ne savez même pas y habiter dans des conditions humaines. Parce qu'en fait, le logement, ce n'est pas seulement avoir un logement. Il faut dire que ce logement puisse réunir le minimum de confort et de salubrité.
Voilà, merci beaucoup. On vous garde encore dans cette émission. Le temps de retrouver aussi Benjamin qui, lui, est à Bukavu, sur Kivu. Il aussi est à Kinshasa et Faustin nous appelle depuis Kalemi. C'est dans la province du Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo.
Parole aux auditeurs.
Bukavu est en ligne avec vous, Benjamin. Vous êtes au sud Kivu. Bonjour, Benjamin.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer brièvement le problème de logement? Est-ce que ça se pose aussi avec Akwite à Bukavu ou c'est un peu plus facile?
Exactement, monsieur le journaliste. Il y a aussi un problème de logement. Vous allez trouver, par exemple, dans notre ville ici, des gens qui font loger des gens dans une même maison. Les maisons qui ne respectent pas les normes d'habitation, tout ça, c'est un problème ici à Rouen.
Alors, d'après vous, quelle politique mettre en place pour résoudre ce problème de logement, d'habitat, parce que d'après un rapport des Nations Unies, près de 800 000 ménages en République démocratique du Congo vivent dans des conditions inhumaines.
Moi, je pensais qu'avec le problème des guerres qui engendrent dans l'est de la République démocratique du Congo, je pensais que le gouvernement congolais pouvait mettre une loi sur mettre une et faire le suivi simplement, parce que il y a eu des fois que bon, on ne pas parler à la radio que le gouvernement congolais a fait le suivi des problèmes de logement, mais on ne voit rien des journalistes. On ne voit rien parce que avec les problèmes qu'il y a à Bukavu, en fait, ça ne va pas vraiment. Il fallait que le gouvernement fait un suivi de tout ce qui fait la gouvernement central.
Voilà, merci beaucoup. Donc, je retiens de vous qu'à cause du problème des différents conflits qu'a connu l'Est de la République démocratique du Congo, il faudrait que le gouvernement fasse le suivi de programmes de logement pour cette partie du pays où sévissait l'insécurité. Merci beaucoup pour votre contribution, Benjamin. Vous intervenez depuis Bukavu, site qui vous... Nous quittons Bukavu pour revenir ici à Kinshasa. C'est avec vous, Ilosio. Bonjour, Ilosio.
Bonjour, c'est le journaliste.
On a vu des sociétés étrangères, je crois une société finlandaise qui s'est proposée de construire des maisons préfabriquées. L'ingénieur va nous expliquer un peu ce que ça signifie. C'est des maisons qu'on vient poser comme ça sur un terrain. Et je crois qu'il y a aussi eu une société italienne qui dernièrement avait fait des propositions à aux autorités du Nord Kivu pour construire des maisons qui coûtent moins cher, accessibles à la population. Est-ce que vous pensez que c'est quand même une solution à ce problème? Si je ne me trompe pas, si mes souvenirs, si mes chiffres sont bons, ici à Kinshasa, les maisons préfabriquées coûtent à peu près 9 000 dollars américains. Est-ce que la population peut y avoir accès?
Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Vous me permettrez que je puisse répondre à votre question, après quoi vous me permettrez également de donner ma piste de solution.
Allez-y.
En fait, en ce qui concerne l'offre des logements en préfabriqué, vous comprenez très bien que cela n'est pas possible pour le Congolais aujourd'hui. Moi-même, qui vous parle, je suis enseignant d'université. On a eu des sites, par exemple à Mitindi, où avec la fleur, on nous a proposé également des maisons à plus de 20 000 dollars. Quand vous me parlez de 9 000, l'ensemble de ces sociétés vous exige, pour commencer, que vous puissiez verser en liquide et au premier coup l'équivalent de 30%. Ça fait pratiquement 3 000 dollars. Imaginez pour un fonctionnaire qui ne touche même pas 100 dollars. Comment va-t-il réunir 3 000 dollars du coup pour payer ce logement préfabriqué et attendre encore un autre échéancier, je ne sais combien d'années, pour réunir les 6 000 dollars restants? Ça pose déjà un grand problème à ce niveau-là. C'est déjà très difficile pour le fonctionnaire, mais pour les autres citoyens qui ont pourtant droit au logement, parce qu'il faut qu'on le dise, le logement est le reflet de la dignité humaine. Et c'est à ce niveau, si vous le permettez, que je glisse la responsabilité de l'État, qui, sur cette question-là, manque de politique cohérente et intégrative. Par exemple, comment comprendre que l'État prenne des espaces, qui sont des espaces des citoyens, exproprie ce qui est légal et constitutionnel, Oui, vient de mourir sans avoir indemnisé. Je vous donne le cas du site Corès qui est les Fonames, où plus de 300 familles ont été mises dehors comme ça du jour au lendemain, sans avoir été indemnisées. Et les 300 familles par rapport à votre chiffre de 800 000, ça fait pratiquement 5%. Des gens qu'on a mis à la belle étoile, qui étaient dans le droit, et pour lesquels l'État a aggravé tout simplement la question qui est déjà si difficile.
Monsieur Lilosio, est-ce que, en partie, je dis en partie, est-ce que ce n'est pas aussi la faute de ces familles qui avaient construit dans des sites à problème, parce que je me souviens que l'honorable Caméré, lorsqu'il était encore président de l'Assemblée nationale, je crois qu'il avait averti une partie de la population en disant « Attention, dans certains sites où vous construisez les maisons, vous risquez d'avoir des problèmes, donc prenez vos dispositions pour trouver d'autres solutions. » Est-ce que ce n'est pas aussi le fruit de l'entêtement de la population?
Parler avec sa mère, c'est du côté où il y a Isita, donc sur l'avenue Place de Liège. Je suis en train de vous parler du site Corès, là où on veut ériger l'hôpital du centre, donc en face de la base logistique. Ce site-là, c'était des sites qui a été exproprié, c'est-à-dire le ministre des Affaires foncières prend un acte d'expropriation. C'est ce que dit la loi. Mais la loi dit, à part exproprier, il faut évaluer, payer et démolir après.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Maintenant, si je peux vous donner rapidement ma piste de solution.
Parce qu'il y a beaucoup d'autres auditeurs là. En une phrase, s'il vous plaît. Parce qu'il y a Faustin qui est déjà en ligne depuis Calémy et Mwamba qui est en ligne depuis.
Je pense vraiment rapidement. Je crois que la piste de solution serait pour l'État de prendre son courage, de racheter, de toute façon en respectant la loi, de racheter les quartiers vieillis des communes de Kinshasa, de Lingala ou de Bandalunga, de construire à hauteur des logements sociaux, parce qu'il ne faut pas envoyer les gens à la périphérie où les conditions urbanistiques ne sont pas réunies. Donc, finalement, l'État, je crois qu'il y aura aussi au problème de moyens.
Wow.
Et quand on voit les gens qui sont dilapidés à gauche et à droite pour des futilités, pour qu'en ayant le courage et la volonté politique, on peut résoudre cette question pour un gouvernement qui veut vraiment faire les choses en fonction de priorités et de la vie de la population.
Merci beaucoup, Monsieur Ilosso. Vous êtes professeur en quoi?
Je suis professeur en sociologie à l'IFP Gombe.
Merci beaucoup. Vous êtes sociologue à l'IFP Gombe. Merci pour votre contribution. Vous intervenez depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, on va prendre Faustin qui lui est à Calémy avant d'accorder aussi la parole à l'ingénieur Michel Ouyumbu qui est ingénieur en bâtiment et travaux publics. Il est notre invité dans cette émission. Il va réagir en fonction de vos arguments. Faustin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Calémy au Katanga. On vous écoute.
Oui, en fait, je voudrais aussi intervenir pour apporter aussi une petite contribution au problème des logements qui rongent presque toute la population congolaise.
Vous êtes bien vu.
Oui, merci. Le problème des logements, à mon humble avis, je pense qu'il est question, il est une mission exclusive à l'État. C'est l'État congolais qui doit prendre sa responsabilité et savoir comment accompagner sa population. Moi, je suis ici à Calémy, je vais vous donner un petit cas spécifique. Il y a certains quartiers qui ont été construits par la population elle-même, où on voit que l'État est absent, donc il ne sait pas accompagner la population là où il peut commencer de nouvelles cités ou de nouvelles constructions. Notamment, vous allez voir qu'il y a absence de l'eau, il y a absence du courant électrique, il y a presque tout. En fait, maintenant, là, c'est là...
Par exemple, quel quartier? Par exemple, oui, vous parlez de quel quartier, Académie?
Oui, il y a un quartier qu'on appelle le quartier de la paix aujourd'hui. C'est un quartier d'ailleurs qui est très bien construit. Malheureusement, il n'y a même pas l'eau, il n'y a même pas de courant électrique. Donc, l'État est absent, il ne sait pas accompagner la population dans la construction des nouveaux logements.
Est-ce qu'à Académie, au Katanga, il y a aussi des maisons qui ont été construites par l'Office national des logements, ONEL, ou d'autres structures de l'État?
Non, il n'y a jamais eu de maisons construites, à part peut-être les maisons de la SNCC qui ont déjà vieilli, qui sont dans un état de l'agrément très avancé. Donc, il n'y a aucun office congolais ou un office pour public qui aurait construit des maisons ou des logements pour la population. Il n'y a jamais eu à Académie.
Donc, comme solution, vous proposez quoi en une phrase?
En fait, comme solution, moi, je voudrais que l'État prenne sa responsabilité en tant que l'État, parce que l'administration publique, ou l'État, c'est bien elle, l'État, c'est bien lui, plutôt, je voulais dire, qui doit savoir accompagner et ouvrir de nouveaux quartiers, de nouvelles cités, et accompagner directement ces nouveaux ou des nouvelles cités en mettant de l'eau, en mettant tout ce qui est important pour que cette population vive dans ce qui est humanitaire, l'humanisme. Donc, cela manque à notre État congolais. Merci. Voilà tout ce que je peux peut-être apporter comme contribution dans cette émission.
Merci, Faustin. Vous intervenez depuis Académie, dans la province du Katanga, sud-est de la République démocratique du Congo, dans la province du Prifère. Salutations à tous ceux qui nous suivent dans cette partie du pays et dans tous les pays en général, à l'étranger aussi. Merci beaucoup.
La course relais de l'information sportive, c'est sur Radio Okapi. Nanambala, au démarrage, passe le relais à Dédélé Kabeyangaloula, qui fonce vers le micro et le passe à Kanis Mukongo Sambouli. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Christian Mulumbala attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et... Victoire. Le 400 mètres relais de l'information sportive, c'est tous les dimanches, à partir de 15h, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous, nos auditeurs et nos auditrices, et nous vous accordons la parole aujourd'hui pour débattre de la problématique de l'habitat, parce que lundi dernier, c'était la journée mondiale de l'habitat, mais en RDC, près de 800 000 ménages vivent dans des conditions inhumaines. 800 000 ménages, c'est des millions de Congolais, parce que dans chaque ménage, il peut y avoir 5 ou 10 personnes, donc ils vivent dans des conditions inhumaines, spécialement dans les villes. Cette information ressort des études de profil urbain menées avec l'appui d'ONU Habitat. Et par ailleurs, à l'horizon 2010, on risque d'assister à une pénurie importante d'habitations. Il va manquer plus de 2 millions de maisons d'habitation, dont plus de 700 000 pour la seule ville de Kinshasa. Ceci selon le document de programme pays 2008-2009 publié par le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Alors, la question principale de notre débat d'aujourd'hui, quelle politique mettre en place en RDC pour accéder à un habitat convenable? Nous en parlons avec l'ingénieur Michel Ouyumbu. Il est ingénieur en bâtiment et travaux publics. Si vous voulez intervenir, trois possibilités. La première, appelez-nous 081-99-77-800, 081-99-77-800, appelez et nous vous rappellerons. La deuxième possibilité, c'est de nous envoyer votre commentaire, votre point de vue ou vos coordonnées téléphoniques et votre prénom par SMS au 09-98-999-222, 09-98-999-222 et par Internet. Si vous nous suivez à travers le monde en live, vous pouvez également intervenir en nous envoyant votre commentaire à l'adresse pa@radiookapi.net, pa@radiookapi.net. N'oubliez pas, Radio Okapi s'écrit avec deux lettres O au milieu. Voilà, donc nous allons prendre maintenant Mwamba et accorder la parole à l'ingénieur Michel Ouyumbu. Mwamba est à Kinshasa. Bonjour Mwamba.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes président du collectif des souscripteurs des terrains au projet de logements sociaux à Kinkole et ici même à Kinshasa. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste votre souscription? Est-ce que ces maisons à Kinkole ont été construites et il s'agissait de quelle société qui devait les construire?
Ok, merci beaucoup. D'abord, je fais chapeau bas au Capi à travers vous et de votre équipe pour vos émissions.
Merci beaucoup.
Je vous remercie de cet espace que vous nous donnez pour un peu nous exprimer. Pour la petite histoire, nous sommes un collectif et qui ont fait de chercher de trouver des voies et moyens pour faire aboutir nos démarches. C'est-à-dire que les délégations syndicales des entreprises ont pris l'initiative louable de pourvoir au logement associé aux agents à contenir du scripté que les entreprises racontent pour pouvoir trouver du logement aux agents.
Ce sont des entreprises privées ou des entreprises de l'État qui ont entrepris ces démarches?
En tout cas, ce sont des entreprises et de l'État, à la plupart des entreprises paraétatiques, parce qu'ils sont un collectif qui regroupe à peu près une vingtaine d'entreprises. Oui. Alors, les démarches de la relation syndicale ont été menées de sorte qu'on puisse acquérir des terres au niveau de Kikol et pour nous éloigner un peu de la ville qui est trop encombrée là.
Alors, ces maisons ont-elles été construites? Parce que moi, je n'en connais pas.
Non, nous ne sommes pas encore au niveau de construction. C'est la grande difficulté. Nous avons d'abord procédé par étapes, acquérir les terrains et puis chercher des partenaires qui vont construire au fond des entreprises. Alors, on a mené toutes les démarches, nous sommes arrivés au point où la plupart d'entreprises a eu l'élémentaire de papier qu'il fallait pour mener la tâche à bon port. Et jusqu'au stade où le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, que nous, on pensait nous accompagner cette démarche, est en train de faire obstruction dans les francs, parce que, après avoir acheté les terrains en bonne et due forme, peut-être qu'il y avait cette irrégularité qui pourrait être modifiée à la longue, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat est en train de récupérer ce terrain. Sous prétexte qu'il y a un programme du gouvernement pour la construction de logements sociaux au niveau de Kinkol. Or, nous savons pertinemment bien, avec les difficultés qui connaît le gouvernement actuellement, il sera très difficile de construire une vingtaine de mille de logements. Parce que le collectif, c'est à peu près 20 entreprises. Si vous prenez moins de 500 engins par entreprise, donc nous pouvons arriver facilement à construire 10 000 ou 20 000 logements.
Mouamba, s'il vous plaît, on a justement un représentant qui va parler au nom du gouvernement, et c'est M. Kabeya Pingipassi. Il va vous répondre directement, puisque je sais qu'il vous suit. Bonjour, M. Kabeya Pingipassi. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, je vous écoute. Écoutez, vous voyez, on entend beaucoup de gens en train de se plaindre de l'action, de l'inaction de l'État.
Excusez-moi, Monsieur Kabeya, excusez-moi, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Vous parlez en tant que qui? En tant que porte-parole?
Je suis conseiller principal du Premier ministre.
Vous êtes conseiller principal du Premier ministre. Allez-y, on vous écoute.
Oui, donc, je veux le faire à rien. Monsieur Blaine, trop de l'action de l'État. Les Congolais ne sont pas très très rationnels, vous savez. Ils ont, me semble-t-il, des attitudes un peu sur le paternalisme belge, où tout effectivement doit venir de l'État. L'État a déjà, le gouvernement a déjà levé l'option pour éviter que, effectivement, il puisse continuer à impulser tous les secteurs. Donc, si vous voulez bien, la vocation de l'État pour l'instant est déjà, est liquidée. Donc, pour l'instant, le plus important est d'engager une politique d'aménagement du territoire, de telle manière qu'on puisse savoir que dans deux ans, dans trois ans, à tel endroit passera telle autoroute, à tel endroit passera à tel chemin de fer, etc. Et les citoyens, en ce moment-là, au niveau de la société civile, les hommes d'affaires, pourront prendre l'initiative. C'est beaucoup plus au niveau des citoyens que devra être résolu le problème. Pas tant au niveau du gouvernement. Le gouvernement, bien entendu, pourra apporter les infrastructures globales. Mais il faut qu'effectivement les privés s'impliquent. On a déjà le pays avec des options. Moi, je viens d'un voyage justement en Corée du Sud pour étudier la politique du développement rural de la Corée.
Vous étiez avec madame la ministre de l'urbanisme.
Non, indépendamment de la ministre. Qu'est-ce que les citoyens coréens ont fait justement? C'est de se regrouper village par village. Tous les villageois s'en vont construire la maison d'un citoyen jusqu'à la fin donc, du processus. Et en ce moment, ces initiatives qui étaient tout à fait privées ont été, bien entendu, plus tard appuyées par l'État. L'État n'a pas pu apporter autre chose que du ciment. Donc, pour l'instant, les Congolais doivent arrêter de considérer que tout doit être fait par l'État. Parce que les Congolais ne veulent pas donner à l'État, au gouvernement, les moyens encore. L'État doit appliquer la politique fiscale qui peut être assez drastique. On ne proteste, tout le monde ne peut pas payer. Hein. On est déjà passé d'un budget de milliards de dollars qui s'est étendu sur plus de 40, 45, 50 ans. Hein. Pendant près de 50 ans, le budget n'était que 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, depuis maintenant 2-3 ans, depuis que. Donc
voilà.
Là, on est passé de 1 milliard à 1 milliard 700, 2 milliards à
1 milliard 700.
Donc même sur un chiffre à 300. Et donc, on est en train quand même de faire un grand boulot. Si vous voyez les paramètres macroéconomiques, donc en ce qui concerne la croissance économique, aucun qui ne peut, si vous voulez bien, réaliser de telles performances. Donc,
okay.
Il faut quand même considérer l'état de beaucoup de choses, compte tenu des contraintes qui sont dessus, compte tenu du fait que, pendant des années, on n'a pas investi dans le pays. Nous ne sommes pas confrontés à la crise, comme je le pense sur votre antenne, nous sommes confrontés d'abord à la pauvreté.
Mais,
la crise,
s'il vous plaît,
c'est un luxe, oui.
S'il vous plaît, on va vous donner, on va encore vous accorder la parole, le temps de faire réagir aussi notre invité qui est sur place, l'ingénieur Monsieur Ouyumbo, qui est spécialiste en bâtiments et travaux publics. Donc, il parle en tant qu'indépendant. Et puis, Mwamba, qui a posé le problème. Mwamba, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse du conseiller principal
du
Conseil?
Je crois que M. Taber, je me suis beaucoup. C'est
rapidement.
Un collègue qui pratique.
Rapidement.
Il n'y a pas longtemps, je mérite, je pense.
Allez-y.
Bon, je suis en train de faire donc. Là, mais il n'a vraiment pas répondu, il est vraiment sorti de nos préoccupations. Lui qui est, je ne sais pas, premier conseiller, je ne sais pas. C'est depuis plus de 4 mois que nous avons écrit à toutes les instances du pays, en commençant par le premier ministre, le président de la République et tous les ministères concernés, pour faire aboutir nos démarches. Est-ce que M. Kabeya a connaissance du problème de société des logements sociaux des entreprises depuis son temps auprès du ministère? Parce que même si le premier ministre, quoi, il est pour ce qu'il a acheté de l'espace là-bas pour le construire, je crois, des logements. Parce que M. Kabeya est au courant. Où est-ce qu'on a orienté les dossiers? Quelle est la réponse à présent qu'on peut donner à ces gens? Vous savez, la hauteur de nos talents ne nous permet pas d'accéder au logement. Quand les gens s'organisent avec le fait qu'ils ont pour accompagner le gouvernement dans les cadres de chantier, il y a certains Congolais, parce que lui parle des Congolais, je ne sais pas s'il est ou il n'est pas. Nous, les Congolais, nous faisons obstruction à ce marché-là. Est-ce que nous sommes des patriotes? Nous sommes pour notre pays.
Merci
nous sommes
beaucoup.
La République.
Merci
nous,
beaucoup.
On nage à fond du courage.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mwamba. Je pense que nous allons garder un tout petit peu M. Kabeya Pindipassi dans cette émission. Merci pour votre contribution. Il aura le temps de vous répondre si vous le suivez au niveau de votre poste récepteur radio. Monsieur l'ingénieur, on a déjà Jean qui est à Kinshasa. Monsieur Kabeya, on vous garde un tout petit peu dans cette émission. Monsieur l'ingénieur Michel Ouyumbo, vous êtes ingénieur en bâtiment et travaux publics. On a entendu un auditeur dire qu'il fallait que l'État puisse racheter des vieux quartiers tels que à Lingwala et à Kinshasa, dans des communes assez vieilles, hein, pour construire en hauteur, c'est-à-dire des maisons en étage comme ça s'est fait en Europe avec des HLM, des maisons en étage à coût moyen pour les grands petits. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, cela peut se faire absolument, mais cela ne peut pas se faire sans qu'on puisse d'abord construire les cités qui vont accueillir les gens qui seront délogés de ces vieux quartiers. Vous ne pouvez pas racheter de maisons de gens, raser les quartiers tout entier, sans pour autant disponibiliser des structures d'accueil pour cette population-là. Ça se fait sous un pression comme ça.
Mmh.
Mais on commence d'abord par construire des camps d'accueil de ces populations. Par exemple, on fait l'extension de la ville vers l'Est. Et puis, il y a des structures nouvelles pour recevoir ces gens-là. Évidemment, comme je l'avais dit, pas seulement des logements, mais des équipements dont cette population aura besoin. C'est-à-dire, on les met dans ce qu'on appelle les aires de centralité. C'est-à-dire, ils sont dans les nouvelles extensions de vie où ils peuvent totalement vivre correctement, sans pour autant dépendre totalement du centre-ville. C'est en ce moment-là seulement qu'on peut envisager et de raser le vieux quartier. Cela peut se faire de cette manière-là. Mais j'aurais bien voulu faire un petit commentaire au propos de M. Kabeya, qui parle au nom du gouvernement. Je pense que dans un secteur aussi complexe que l'habitat, c'est l'État qui intervient en premier lieu. D'autant plus que c'est l'État qui doit donner les lignes directrices. Le privé ne vient qu'en partenariat avec l'État pour l'accompagner. Je vais m'expliquer. Vous avez une ville comme Kinshasa. Le plus grand problème que nous avons dans la ville de Kinshasa, c'est une conséquence de manque de politique de l'habitat. Comme il y a
aussi... Il y a une politique, hein.
Manque de politique de l'habitat, parce que cette politique-là, à ma connaissance, n'a pas produit. De nos rendez-vous compte, de 52 à 1960, avec l'Organisation des cités africaines, là nous sommes à l'époque de la colonisation, l'OCA avait produit 32 224 maisons pour la République, 32 000 maisons en un espace de 8 ans.
Et l'OCA, c'est quoi?
L'Office des cités africaines.
C'est une structure de la colonisation.
C'est une structure mise à l'État par, par le pouvoir colonial pour résoudre le besoin au logement de la population. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, par exemple, il y avait un décret royal qui avait été signé en 1928 où le roi de Belge obligeait totalement aux employeurs de bien pouvoir subvenir aux besoins au logement de leurs employés. Et l'État, c'est le plus grand employeur de ce pays. Donc, si l'État qui est le plus grand employeur ne peut pas subvenir aux besoins en logement de la population, de ses employés. Comment il peut en demander au privé? Donc l'État a une grande responsabilité, d'autant plus que c'est l'État qui fixe les grandes lignes directrices. C'est l'État, au travers des gouvernements provinciaux, qui doit disponibiliser ce qu'on appelle le plan général d'aménagement des villes, et de ce plan général d'aménagement des villes qu'on aura de grandes zones réservées à la ville.
Il semble qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, comme le disait M. Kabéan Pindipati, le conseiller principal du Premier ministre, il dit qu'avec un budget de 5 milliards de dollars, on ne peut pas tout faire.
Absolument, il a raison, on ne peut pas tout faire. Mais il y a des structures dont l'État congolais est actionnaire. Je vais parler de Shelter Afrique. L'État congolais est actionnaire de Shelter Afrique. Shelter Afrique, c'est une institution régionale, donc, pour dire africaine, qui s'occupe des financements, des politiques de financement en matière de logement. L'État congolais est actionnaire depuis, je crois, bientôt 3, 4, 5 ans, si ma mémoire est bonne. Mais le problème, c'est que l'État congolais a toujours un problème. Il y a l'État congolais qui est actionnaire de catégorie A, devait absolument bénéficier des financements de Shelter Afrique. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, depuis que nous avons adhéré à Shelter Afrique, nous, en tant qu'État, nous n'avons pas bénéficié, alors
pourquoi?
Que d'autres pays.
Moi,
je ne sais pas pourquoi, peut-être, M. Kabéan, qui parle au nom du gouvernement, pourquoi,
voilà.
Je ne sais pas.
Voilà.
Mais il y a le Cameroun, il y a le Nigeria, beaucoup d'autres pays africains qui bénéficient de financements de cette institution régionale.
On va vous accorder encore la parole, parce qu'il y a déjà Jean de Kinshasa et Damien de Walika de Nord Kivu qui sont déjà en ligne.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Jean, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat? Vous avez, je l'espère, suivi les uns les autres.
Oui, monsieur Jean, je vous remercie pour m'avoir apporté la parole.
S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste radio et si vous êtes à l'intérieur d'une maison, je vous prie, s'il vous plaît, d'en sortir parce que le son est assez étouffé. Donc, il est temps que vous puissiez vous arranger.
Merci pour la remarque. Je viens déjà de m'éloigner de ma radio.
Allez-y.
Je voulais vous dire ceci. Nous reconnaissons que le gouvernement de la République démocratique du Congo éprouve beaucoup de difficultés. Nous, d'abord, nous sommes un État post-conflit et qui a beaucoup de priorités. Mais permettez-moi en même temps de vous dire que du côté urbanisme et habitants, en toute sécurité, il n'y a pas grand-chose. Et la complicité ou la responsabilité de l'État est mise au grand jour. Je vous donne un exemple. Quand vous descendez à Massina, par exemple, au quartier Saint-Gravat, commune de Massina.
Massina, Kinshasa, oui.
Oui, oui. Toute une zone de flaque d'eau là-bas, ce sont des chefs coutumiers qui sont en train de lotir. Les gens sont en train d'y construire au vu et aussi de l'autorité publique. Malheureusement, les institutions judiciaires venant au secours de ces constitutions anarchistes, lorsque ces fameux chefs coutumiers sont traînés en justice, ils en sortent avec les gants de procès en main. Vraiment, je vous dis, la responsabilité quant à cet urbanisme ou cet habitat mal en point est partagée par tout le monde.
Jean, s'il vous plaît, quel est d'après vous le rôle de l'État? Parce que M. Kabéan Pindipati, le conseiller principal du Premier ministre, Adolf Mouzeto, qui intervient dans cette émission, a dénoncé le caractère paternaliste, colonialiste du peuple congolais. Si je l'ai bien compris, il faut que l'État fasse tout, même balayer devant la maison. On voit ça souvent même à la télé, que l'État vienne balayer, que l'État vienne faire ceci. Quelle est la part de l'État et quelle est la part de la population pour résoudre ce problème de logement?
Je crois qu'il y a lieu de faire une démarcation entre un gouvernant et un gouverné. L'État doit demeurer puissance publique dont les lois ne peuvent pas être impunément violées. Dans notre pays, il existe un principe sacré. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État.
Dans
la Constitution, on vous dit que ça appartient à un Tégué, à un Wimbu. C'est des mots de la tolérance
coupable du ça.
Merci, merci beaucoup. On comprend que vous dénoncez l'immixtion des chefs coutumiers dans les lotissements que vous appelez d'anarchie, que cela pose problème. Je vois aussi l'ingénieur Michel Oyumbu Akite. Merci beaucoup pour votre contribution, Jean. Vous intervenez depuis Kinshasa. Directement maintenant, Wali Kale, au Nord Kivu avec vous, Damien. En une minute, quelle est votre contribution? Parce que bientôt, dans une minute et quelques poussières d'escompte, ça sera notre point d'actualité. Ça sera notre bulletin d'information. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. S'il vous plaît, éloignez-vous de votre radio. Éloignez-vous de votre radio, s'il vous plaît.
Ok, j'espère que je suis éloigné.
Oui, maintenant ça va mieux.
Alors, je voulais seulement vous dire que si l'habitat de la population congolaise n'est pas amélioré, cela est de la faute du gouvernement.
Pourquoi?
Parce que par exemple, à Walikale, c'est un milieu, disons, milieu forestier et qui est surtout minier. Mais vous allez voir que le gouvernement perçoit des taxes et qui ne cherche pas à améliorer, améliorer les conditions de la population. Le fait est que Walikale est tellement désenclavé. Acheter un sac de ciment, c'est au moins 35 à 40 dollars. Une tôle, c'est à 15 dollars. Alors imaginez quelqu'un qui peut avoir de l'argent. Comment il peut avoir des sacs suffisants pour construire une maison? Les routes ne sont pas entretenues. La seule voie praticable, c'est la voie aérienne. Alors la population qui se trouve à plus bas niveau n'est pas à mesure de s'acheter au moins 10 sacs de ciment.
On va vous retrouver, Damien, s'il vous plaît, dans quelques secondes, ça sera notre bulletin d'information. On va vous retrouver tout juste après ce bulletin d'information de Radio Okapi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, nous revenons dans cette émission Parole aux auditeurs qui revient sur les problèmes d'habitat. Nous y revenons, nous en parlons à l'occasion de la journée mondiale de l'habitat qui a été célébrée lundi dernier. Alors, nous nous posons une seule question dans ce débat. Quelle politique mettre en place en RDC pour accéder à un habitat convenable? Nous en parlons avec l'ingénieur Michel Oyumbu qui est ingénieur en bâtiment et travaux publics. Mais nous avons aussi un conseiller, le conseiller principal du premier ministre Adolphe Mouzito, M. Kabeya Pindipati, qui intervient dans cette émission. Damien, vous allez terminer votre idée en une phrase pour qu'on accorde également à nos invités la parole.
Bon, excusez, parce que je voulais juste donner ma recommandation.
Oui, allez-y.
Alors, au niveau de Walikale, par exemple, il serait mieux que toutes les voies de communication soient praticables pour que au moins chacun cherche comment améliorer son habitat.
C'est tout, hein? Merci beaucoup. C'est tout?
Ok.
Merci beaucoup pour votre contribution depuis Walikale au Nord Kivu, dans la partie est du pays. Nous saluons tous ceux qui nous suivent dans cette partie du pays. Nous revenons à vous, Monsieur Kabeya Pindipati, dans une poignée de secondes.
Vous êtes au centre de toutes les questions. Ils sont la solution possible à vos problèmes. Radio Okapi réfléchit avec vous sur la solution. En direct, avec toutes les suites de paroles aux auditeurs. Paroles aux auditeurs. Parlez, nous transmettons. Proposez, nous discutons. Paroles aux auditeurs. Le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Monsieur Kabeya Pindipati, vous êtes encore avec nous?
Oui, bien sûr.
Voilà, donc il y a par exemple Damien qui vient d'intervenir de Walikale au Nord Kivu qui dit que pour la cité de Walikale, c'est un milieu forestier et minier. Il dit que l'État perçoit des taxes, mais il n'y a aucun plan d'aménagement. Les sacs de ciment coûtent par exemple 35 dollars, ce qui fait que c'est quand même difficile pour eux, la population, d'aménager l'endroit où ils vivent. Et ils ne sentent pas un certain accompagnement de l'État. Et puis, il y a aussi d'autres auditeurs qui ont proposé, par exemple, d'acheter des vieux quartiers à Lingwala, de la commune de Kinshasa, ici, dans la capitale, pour y ériger des immeubles où pourraient habiter beaucoup de Congolais. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, à propos de notre ami qui appelle de Walikale, donc je disais tout à l'heure qu'effectivement, parce que le thème central de votre magazine est la politique de l'habitat qu'il faut développer. Donc, je le disais, je crois que l'invité principal est d'accord avec moi. Il faut d'abord, la responsabilité du gouvernement est donc de trouver un plan d'aménagement de l'ensemble du territoire. Il y a même des villes qui vont être construites dans 50 ans, dans 100 ans, qui peuvent être sur une carte, mais qu'on ne voit pas aujourd'hui.
Mais 50 ans, c'est beaucoup quand même. Hein, alors, il y a beaucoup de problèmes de l'eau. Oui, et j'ai dit 50 ans, c'est beaucoup, parce que la population
de l'eau. Oui, c'est ça justement. Justement, ceux qui ont fabriqué l'Union européenne, ils l'avaient conçu au milieu des années 50. Donc, voilà, ça devait prendre encore près de 50 ans après. Donc, et c'est ça justement notre problématique. Ce que nous, tout ce que nous voulons concevoir, c'est le court terme. Les choses qui sont durables dans toutes les civilisations doivent compter toujours avec le temps et surtout avec les moyens. Quand, par exemple, à Wali Kale, on dit que l'État ne fait pas ceci, ne fait pas cela, je vois cela très très souvent. Parfois, des députés nationaux viennent à l'hémicycle. Certains ne connaissent même pas le budget de leur territoire, ni même de leur secteur chevelu, ils ne connaissent pas le budget annuel. Ils font des promesses électorales sans savoir quelles sont les ressources qui vont être générées pour pouvoir appuyer donc l'exécution de l'accomplissement de cette promesse.
Mais l'État n'a
pas. Là aussi, au niveau de Wali Kale,
oui.
Il faut savoir, au-delà du fait que peut-être, c'est vrai que l'État, et non pas le gouvernement, peut-être que l'État, c'est-à-dire l'administration publique sur place, n'accompagne pas, mais il faut savoir quelles sont les ressources dont l'administration dispose pour pouvoir accompagner. Vous dites oui, effectivement, on perçoit des taxes et tout ça, etc. Tout ce qui est l'ingénieur l'a dit également, tout ce qui est habitat, tout ce qui est construction, ça bouffe énormément des ressources financières. Et donc, c'est pas avec des 35 dollars, je ne sais pas combien de milliers, de centaines de milliers de dollars on peut récolter, qu'on peut agir de façon efficace.
Mais quel est le budget? Quel est le Il ne nous reste que 6 minutes à peu près, hein, s'il vous plaît.
Oui.
Si vous pouvez vous résumer, parce que leur site, Stanislas,
oui,
s'il vous plaît, je vais vous poser une question. Quel est le budget, s'il vous plaît?
Qui doit être exécuté. Mais agir au cas par cas ne peut pas être efficace. Dans la durée. Mmh. Alors, vous dites qu'ici à Kinshasa, faut-il effectivement passer certaines communes, etc., pour essayer de construire. Ce serait une solution. Mais la solution, je crois, c'est celle qu'on donnait. C'est de faire des extensions, encore rien, n'est-ce pas, où on peut commencer la construction selon le nombre de références des ingénieurs qui sont le nombre du bâtiment. Alors, maintenant, je voudrais insister sur une chose, ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème de ressources pour le gouvernement. Il n'en a pas et il a énormément de tâches qu'il doit affronter.
Quel est le budget consacré au domaine de l'habitat? Quel est le budget consacré au domaine de l'habitat dans le budget de l'État? Pour voir un peu la volonté du gouvernement.
Eh bien, dans le projet actuel qui est en discussion, les chiffres ne sont pas encore définitifs, je ne sais pas vous donner un indicateur.
Et l'année passée, si vous avez des chiffres, pour cette année, par exemple, pour cette année, est-ce que vous avez des chiffres?
Oui, pour l'année dernière, c'était quand même un peu moins de 2%, il faut le dire.
Mais c'est pas beaucoup, hein.
C'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais en fait, il faut considérer que nous avons un certain nombre de contraintes qui ne sont pas minimes. Nous sommes un pays en situation de post-conflit.
Merci beaucoup.
Donc, on a tout un processus à gérer.
Oui.
Nous n'avons pas encore eu la confiance des grandes places financières internationales pour pouvoir avoir des capitaux que nous devons investir dans les grands projets que nous avons.
Merci
Mais
beaucoup.
Je crois que c'est un indicateur considérable que d'avoir pu mobiliser de partir d'un milliard, de 1,5 milliard. Ce n'est encore rien du tout par rapport aux 60 millions pour leur exigence.
Merci.
Mais je crois qu'on a déjà fait un effort considérable et louable pour le gouvernement.
Voilà, on va aussi prendre Stanislas. Vous êtes à Kananga, au Kasaï, occidental. Bonjour Stanislas.
Bonjour M. Claude.
En une minute, quelle est votre idée? Quelle politique pour résoudre ce problème d'habitat?
En tout cas, pour résoudre ce problème d'habitat, l'État devrait avoir une politique en matière de logement et encourager les privés qui ont l'initiative de construire pour mettre des logements à l'action de la population en diminuant le prix du matériel de construction. Parce que nous constatons que les privés qui construisent, ils ne construisent qu'uniquement pour eux-mêmes et pour leur famille. Donc le premier, c'est le Congolais lui-même. Le Congolais devrait avoir cette politique en matière de logement parce qu'il n'est pas facile d'accéder à un logement. Et l'État même ne sait pas combien habite un tel ou un tel milieu pour avoir cette politique-là.
Merci beaucoup.
On a supprimé l'État n'a pas dit à la population pourquoi il a remplacé par quoi. Alors avec tout ça,
C'est comme si la population est abandonnée à elle-même et qui doit se débrouiller pour...
Merci beaucoup Stanislas pour votre contribution depuis Kananga au Cap Occidental. Ingénieur Michel Yombou, on va terminer avec vous, mais il y a aussi José Arcalengay qui nous a écrit de l'Espagne, de Madrid en Espagne. Il dit que l'État doit inviter les grandes entreprises qui viennent s'implanter en RDC à construire leurs propres bureaux, des camps de travailleurs, leurs infrastructures, etc., favoriser le crédit ou l'aide au financement des logements dans les secteurs privés ou publics. Il dit qu'il faut que l'État favorise également la construction des maisons préfabriquées et en matériaux composites. D'après lui, des maisons qui coûtent moins cher et qui peuvent être construites rapidement en 1 minute 30.
Oui, c'est comme je l'avais dit.
Donc,
dans ce domaine de l'habitat, l'État est le plus grand acteur.
Oui.
Donc, l'État devait mettre de l'ordre d'abord dans le secteur de l'aménagement foncier, c'est-à-dire disponibiliser au travers des gouvernements provinciaux le plan d'aménagement de toutes les villes de la République. Ensuite, créer une filière responsable qui va s'occuper de la production de logements. Et enfin, disponibiliser ou essayer de mettre un établissement public, une institution spécialisée pour le financement des logements.
Des banques de logements.
Une banque spécialisée pour le logement. Et ensuite...
Mais les gars, petits n'ont pas souvent accès aux banques.
Absolument. Mais alors, hormis ça, l'État doit trouver une politique de logements sociaux pour les pauvres et pour ceux qui ont un revenu moyen. D'autant plus que la majorité de la population se retrouve dans cette couche de revenus moyens. Et c'est en faisant cela seulement que l'État aura une... Parce que on l'a pas dit, mais il faut qu'on se dise... Il est évident que le secteur de l'habitat ou des logements, c'est un secteur qui peut générer de grandes recettes. Aujourd'hui, on est à la recherche de mobilisation de recettes. Si l'État investit dans ce secteur de l'habitat, il y aura beaucoup de recettes. Rappelez-vous que la crise financière internationale, c'était une crise immobilière.
Merci.
La plupart des pays européens mobilisent beaucoup de recettes dans ce secteur de l'habitat.
Voilà, merci. C'était là votre dernier mot. Merci d'avoir participé à cette émission. Ingénieur Michel Ouyumbu, vous êtes ingénieur en bâtiment et travaux publics. C'est à Béatrice, du parti, vraiment en 15 secondes. Qu'est-ce que vous répondez à José Arcalengay d'Espagne qui dit qu'il faut favoriser les maisons préfabriquées et en matériaux composites? Vraiment en 15 secondes, parce qu'il ne nous reste qu'une minute.
Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Effectivement, il faut diversifier le type de logement à ériger parce que nous avons effectivement une diversité de classes sociales et de revenus. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Il restera le problème de l'utilisation, parce que bon, vous avez dit tout à l'heure, hein, les gens vont dans les toilettes, parfois ils sont très propres, mais ils ne savent pas les utiliser, et
merci
ça, c'est un grand handicap par rapport donc à des conditions saines et décentes de vie, quoi.
Merci beaucoup, monsieur Kabea Pindipasti, d'avoir participé à cette émission. Vous êtes conseiller principal du premier ministre Adolphe Mouzito. Merci pour votre contribution. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, d'y avoir contribué. Donc, demain, nous nous retrouvons pour parler de la réforme de l'armée nationale. Le projet de loi portant réforme des FARDC a été jugé recevable à l'Assemblée nationale. Quel mécanisme, d'après vous, mettre sur pied pour rendre notre armée plus performante et professionnelle? Vous connaissez nos contacts par SMS, envoyez vos réactions 09 98 999 222 et par internet à pa@radiocapi.net. Merci à ma complice de tous les jours, Titine Poutou, Berry Franklin, Lou Chaka et Guy Marquis, qui a mis en onde cette émission. Ils m'ont aidé à préparer cette émission. Parole aux auditeurs, Ben Tabamba, la coordonnée. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.